Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Italie serait-elle en train de devenir un pays raciste? La question est posée par les Nations Unies alors qu'un nouveau drame de la migration s'est joué hier en Méditerranée. Une centaine de morts, des rescapés accusent les gardes-côtes italiens de ne pas être intervenus plus tôt.
Un âpre débat s'annonce au Parlement européen aujourd'hui à Strasbourg entre les eurodéputés et le Premier ministre hongrois Viktor Orban en personne pour décider si l'Union européenne doit agir pour prévenir du risque de violation grave de ses valeurs en Hongrie.
À la une également des questions autour de la sécurité des aéroports au lendemain de cette scène digne d'un film américain. Un homme a foncé avec sa voiture sur le tarmac de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. La sécurité encore et cette question, comment mieux coordonner les policiers nationaux et les gendarmes avec les policiers municipaux et les agents de sécurité privée. Un rapport doit être remis cet après-midi à Édouard Philippe.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, plus 54% de tirs. Pourquoi les policiers utilisent-ils de plus en plus leurs armes à feu? On posera la question à Jacques de Maillard, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin.
Ils étaient peu à savoir nager, très peu équipés de gilets de sauvetage alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Plus de 100 personnes sont mortes, dont une vingtaine d'enfants, dans le naufrage de deux bateaux de fortune en Méditerranée. Bilan provisoire fourni par Médecins sans frontières qui a recueilli des témoignages auprès des rescapés, des migrants venus du Soudan, du Mali, d'Égypte, de Libye, d'Algérie notamment, dont les embarcations ont coulé au large de la Libye. MSF a soigné des survivants brûlés, parfois à 75% du corps, par les produits chimiques qui s'échappent du moteur de leur bateau. Des rescapés qui accusent les gardes-côtes italiens d'avoir tardé à arriver sur les lieux du drame. La gestion de la crise migratoire par l'Union européenne a été par ailleurs critiquée hier par la nouvelle haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, ex-présidente du Chili, et de cibler les populistes au pouvoir en Italie qui ont décidé à plusieurs reprises de fermer les ports aux migrants transportés par des ONG. Rome n'a pas tardé à vivement réagir, Olivier Tosseri.
L'Italie n'accepte de leçons de personne sur les migrants, a sèchement réagi le ministre de l'Intérieur. Ces dernières années, l'Italie a accueilli 700 000 immigrés, dont beaucoup de clandestins, et n'a jamais reçu d'aide des autres pays européens, a-t-il poursuivi. C'est justement la politique d'accueil de l'Italie ces derniers mois qui est dénoncée par Michel Bachelet. Elle critique les décisions prises par Matteo Salvini de fermer les ports aux navires ayant secouru des personnes en Méditerranée et de supprimer les programmes d'intégration. Une politique qui génère, selon elle, délibérément de la peur et de la colère chez les migrants, les prive de leurs droits fondamentaux et procure plus d'hostilité, de misère, de souffrance et de chaos. Elle cite ainsi la forte augmentation signalée des actes de violence et de racisme contre les migrants, les personnes d'origine africaine et les Roms en Italie. Pour Matteo Salvini, son pays n'est pas raciste et il donne un conseil à Michel Bachelet avant de s'occuper de l'Italie, que l'ONU enquête sur ses États membres qui ignorent les droits élémentaires comme la liberté et la parité entre hommes et femmes. Matteo Salvini qui évoque également la possibilité de réduire la contribution de l'Italie au budget de l'ONU.
Autre pays irrité par la nouvelle haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Autriche, Michelle Bachelet, a décidé d'y envoyer une de ses équipes pour évaluer la gestion de la crise migratoire. De son côté, le vice-chancelier autrichien qui dirige le parti d'extrême droite FPE a proposé hier de former un bloc commun anti-migrants au sein du Parlement européen avec le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'homme fort de Budapest qui participe aujourd'hui à un débat au Parlement européen à Strasbourg, d'âpres discussions à venir pour savoir si l'UE doit réagir au risque de violation grave de ses valeurs en Hongrie. Le Parlement européen pourrait recommander à l'exécutif de déclencher l'article 7 qui prévoit de suspendre le droit de vote d'un État membre. Les précisions à Budapest de Florence Labruyère.
Viktor Orban est confiant. Il sait que même si le Parlement européen recommande de déclencher l'article 7, le vote a peu de chances de déboucher sur des sanctions. Car il faudrait que l'exécutif européen vote ensuite à l'unanimité pour retirer son droit de vote à la Hongrie. Or la Pologne, qui soutient Budapest, a toujours dit qu'elle voterait non. L'article 7 est donc impossible à appliquer. Mais le lancement de la procédure serait une gifle symbolique pour Viktor Orban. Le dirigeant nationaliste a longtemps bénéficié de la complaisance de sa famille politique, le Parti populaire européen. Mais aujourd'hui, certains membres du PPE sont excédés par la dérive autoritaire de l'homme fort de Budapest. Le chef du PPE, Manfred Weber, aurait téléphoné à Orban pour lui demander d'abroger des lois jugées liberticides. En échange, il l'aurait assuré de son soutien. Finalement, les cartes sont dans les mains du Premier ministre hongrois. Viktor Orban a toujours su tirer son épingle du jeu en évitant la confrontation au dernier moment.
Florence Labruyère à Budapest pour France Culture. Les États-Unis ont mené hier une attaque sans précédent contre la Cour pénale internationale et menacé ses juges et procureurs de sanctions s'ils s'en prenaient à des Américains ou à Israël. En novembre dernier, la procureure de la CPI avait annoncé qu'elle allait demander aux juges l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan, notamment par l'armée américaine. Par ailleurs, les États-Unis ont décidé de fermer la représentation à Washington de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui accuse Israël de crimes de guerre et réclame une enquête de la CPI. Le début des manœuvres annuelles de l'armée russe en collaboration avec un contingent de l'armée chinoise, histoire de rappeler aux Occidentaux le rapprochement effectif entre Moscou et Pékin. Près de 300 000 soldats russes vont se déployer d'ici la fin de semaine entre la Sibérie orientale et Vladivostok. Des exercices grandeur nature qui devraient utiliser plus de 35 000 véhicules militaires, des chars d'assaut, des navires de guerre également, ainsi que des avions de combat. Pour les 29 pays membres de l'OTAN, la vigilance s'impose, Pierre Benazé.
Les quelques 13 000 hommes seulement alignés l'an dernier par les forces armées russes et biélorusses pour l'exercice Zapad 2017, c'est-à-dire Ouest 2017, avaient déjà provoqué une vive inquiétude de l'OTAN, en particulier évidemment en Pologne et dans les pays baltes, puisque ces grandes manœuvres se déroulaient à leurs portes. Cette année, l'énorme déploiement de Vostok 2018 se déroule 6000 km plus à l'est, à proximité donc de l'Alaska, et l'OTAN a assuré à l'avance de sa vigilance. La Russie et l'Alliance Atlantique ont renoué avec leurs réunions occasionnelles du Conseil OTAN-Russie, qui permet entre autres de s'informer mutuellement des grandes manœuvres prévues. Les attachés militaires à Moscou des pays de l'Alliance ont d'ailleurs reçu une invitation à se rendre sur le terrain en tant qu'observateurs. La préoccupation de l'OTAN face à une Russie qui, je cite, « prend de l'assurance » est évidemment le miroir de l'attitude russe en regard des grandes manœuvres alliées prévues en Norvège cet automne. Depuis l'annexion de la Crimée, l'Alliance Atlantique et la Russie ont renoué avec la méfiance réciproque de la guerre froide, une méfiance particulièrement intense au sujet des grandes manœuvres ou au sujet de l'intervention militaire russe en Syrie.
En Espagne, les indépendantistes catalans vont compter leurs forces aujourd'hui dans les rues de Barcelone à l'occasion de la Diada, la fête nationale catalane utilisée depuis 2012 par les séparatistes pour réclamer l'indépendance de la Catalogne. Selon la puissante association indépendantiste ANC, au moins 460 000 personnes sont inscrites pour cette manifestation qui commémore la prise de Barcelone le 11 septembre 1714 par les troupes du roi Felipe V qui supprima l'autonomie de la région.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, un homme de 31 ans, a été arrêté après avoir foncé avec sa voiture sur le tarmac de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. C'était hier matin.
Un homme poursuivi par plusieurs véhicules de police, entraînant l'interruption du trafic pendant plusieurs heures. Voulait-il échapper à la police qui le poursuivait ou avait-il d'autres intentions? Son intrusion, en tout cas, a blessé légèrement une personne qui travaillait sur une nacelle dans l'aérogare. Le suspect n'a aucun antécédent judiciaire, mais il serait atteint de troubles psychiatriques, de quoi relancer des questions sur la sécurité des aéroports en France. Comment mieux coordonner les policiers nationaux et les gendarmes avec les policiers municipaux et les agents de sécurité privée? Cette question est au cœur d'un rapport remis cet après-midi au Premier ministre Édouard Philippe par les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot. Il formule 78 propositions pour mieux articuler l'action des forces de sécurité. Ils font notamment une proposition choc sur l'armement des polices municipales. Sophie Parmentier.
L'arme ne doit pas être un tabou pour l'un des députés auteurs de ce rapport, le commissaire Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, qui a notamment dirigé plusieurs assauts lors des attentats de 2015. 3 ans plus tard, la menace terroriste reste omniprésente et les polices municipales doivent aussi pouvoir y faire face en situation d'urgence, d'autant qu'elles sont aussi prises pour cible, dit le député commissaire Fauvergue, qui préconise que les 22 000 policiers municipaux soient désormais tous armés de pistolets 9 mm, sauf si le maire s'y oppose. Aujourd'hui, moins de la moitié de ces policiers municipaux sont porteurs d'une arme de poing létale. Quand le maire l'a expressément demandé, l'armement deviendrait la norme et le non-armement l'exception. Mais dans leur rapport, les parlementaires proposent aussi de mieux former les policiers municipaux, tout comme les 160 000 agents de sécurité privée. C'est d'ailleurs leur proposition numéro 1, bâtir une filière complète de la sécurité privée comme publique, du CAP au master pour la rentrée 2019.
un choix de stabilité et de cohérence. Richard Ferrand est en passe de devenir le prochain président de l'Assemblée nationale après avoir décroché dès le premier tour hier l'investiture des députés de La République En Marche. En cette rentrée compliquée, pas de fracture de la majorité présidentielle au congrès de Tours où nous serons dans un instant. C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24. Les députés socialistes vont à nouveau s'appeler socialistes. Le groupe du PS à l'Assemblée nationale avait changé de nom il y a un peu plus d'un an après des élections législatives catastrophiques pour devenir finalement la nouvelle gauche. Demain, à l'occasion de la rentrée parlementaire, ils vont reprendre leur identité pour s'appeler socialistes et apparentés. La proposition a été validée par un vote à l'unanimité hier à l'occasion des journées parlementaires du PS à Toulouse. Stéphane Robert.
Socialiste, nous l'avons toujours été, expliquait hier après-midi la députée PS du Calvados, Laurence Dumont, sur Twitter, pour justifier le changement d'appellation. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on avait un problème d'identification, avait reconnu un peu plus tôt le premier secrétaire du parti, Olivier Faure. Les députés et sénateurs socialistes, réunis depuis hier à Toulouse, ont donc validé ce nouveau nom à l'unanimité, socialistes et apparentés. Est-ce le signe d'une fierté retrouvée, s'interroge le journal Le Monde dans son édition datée d'aujourd'hui mardi. En tout cas, cette réhabilitation va nous donner une meilleure lisibilité, répond la présidente du groupe à l'Assemblée, Valérie Rabault. Cette réappropriation du nom socialiste un an et demi après la sévère défaite de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle semble attester du fait que les oppositions, pas seulement les socialistes, profitent des difficultés d'Emmanuel Macron dans l'opinion et reprennent de la vigueur. Mais parallèlement, cette réappropriation du nom socialiste intervient alors que l'aile la plus à gauche du parti a montré ce week-end, avec Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, qu'elle avait l'intention de faire défection pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon, ce qui tend à montrer que si les oppositions, et les socialistes notamment, ont su reprendre de la voix depuis quelques semaines avec l'affaire Benalla, elles sont encore loin d'être en mesure de se rassembler et de constituer des forces politiques crédibles face aux marcheurs d'Emmanuel Macron.
1 million d'habitants doivent être évacués. La côte est des États-Unis se prépare activement à être touchée de plein fouet par le puissant ouragan Florence. Dans quelques jours, frappe directe sur la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie, a tweeté hier soir Donald Trump. L'ouragan Florence, dont les vents pourraient atteindre les 220 km/h. Le temps en France de ce mardi 11 septembre estival. Une fois que la grisaille matinale sera dissipée, les températures sont comprises ce matin entre 9 et 16 degrés du nord au sud, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 21 à 23 sur les côtes de la Manche, 23 à 28 de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, 27 à 34 degrés sur le reste du pays.